Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un.
Oh oui, et un beau.
Le côté obscur, je perçois en toi.
Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment va ?
Mais ça va.
Bah oui, alors dis-moi, qu'avons-nous au sommaire de cette émission ?
Eh bien, on va commencer avec l'actualité jeux vidéo et puis ensuite, je crois qu'il y a un gros morceau sur Game in Reims.
Il y a, voilà, on revient un peu sur le Game in Reims qui avait lieu le 24 et 25 novembre au Parc des Expos à Reims. Et donc, en deuxième partie, on retrouvera les interviews que j'ai faites là-bas, c'est-à-dire les interviews de Patrick Borg, qui est la voix de Sangoku adulte, de David Boreanaz, Angel dans Buffy, entre autres, et qui en a fait beaucoup, beaucoup. Et puis également de Brigitte Lecordier, que l'on avait déjà interviewé l'année dernière, et on va parler aussi un petit peu avec elle de films pour adultes.
Voilà. Ah bon ?
Oui.
Pourquoi ? À cause de Poupidou ?
Pipoudou.
Pipoudou. Pardon, j'étais pas dans le bon ordre.
Attention, c'est un dessin animé vraiment pour adultes.
Oui, ce n'est pas pour enfants.
Et adultes avertis. Oui. Et donc, petite interview de Patrick Borg et Brigitte Lecordier, également du staff du Game in Reims, et puis des gens, savoir s'ils ont apprécié cette deuxième édition du Game in Reims.
D'une série aussi, des gens qu'on avait déjà interviewé d'ailleurs.
Oui.
De Donjon Legacy.
Ce sera plus en fin d'émission.
Oui. Mais en fait, je ne sais pas exactement ce que tu as prévu. J'ai envie de te poser la question. Moi, en tout cas, je veux parler d'une bande dessinée à un moment.
Oui.
On garde l'actu cinéma.
Oui.
Le forum RP.
Oui, toujours.
Ah, toujours, ok. Bah, on va pas avoir beaucoup de temps pour parler avec tout ça.
Il y a pas mal de choses, oui, c'est vrai. Donc, on va commencer par les jeux vidéo, les sorties jeux vidéo de la semaine. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 4 décembre de Just Cause 4, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Avalanche Studios et édité par Square Enix. C'est un jeu d'action. L'agent solitaire Rico Rodriguez se rend à Solis afin de découvrir la vérité sur son passé, quoi qu'il en coûte. Enfilez votre wingsuit, équipez-vous de votre grappin entièrement personnalisable et préparez-vous à déchaîner les éléments. Dans un monde ouvert, affrontez vos ennemis dans des conditions climatiques extrêmes, y compris au milieu de tornades et d'orages tropicaux, et prenez la tête de la rébellion pour vaincre la Main Noire, une organisation militaire privée dotée d'une technologie de pointe. Just Cause 4, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La sortie également le 4 décembre de Monster Boy et le Royaume Maudit, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Game Atelier et édité par FDG Entertainment. C'est un jeu d'action-aventure en 2D. La série légendaire revient avec une nouvelle grande aventure. Jin peut-il sauver le royaume de Monster World ? Aidez-le à vaincre des ennemis impitoyables, découvrez des lieux secrets, améliorez votre équipement et débloquez des transformations spéciales dotées de capacités uniques, servant à ouvrir de nouvelles voies et résoudre des puzzles. Monster Boy et le Royaume Maudit, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 7 décembre de Super Smash Bros. Ultimate, disponible sur Switch. C'est développé par Bandai Namco, édité par Nintendo. C'est un jeu de combat plateforme. C'est le 5e épisode de la série. Et dans cet opus, on retrouve l'intégralité des combattants déjà apparus dans Super Smash Bros. 75 personnages jouables sont disponibles, en comptant le dresseur ainsi que tous ses Pokémon. Affrontez-vous dans divers modes et options jusqu'à 8 joueurs, ou former des équipes contre une autre équipe adverse et tenter de devenir le roi de l'arène. Super Smash Bros. Ultimate, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. Et donc, en deuxième partie, on va revenir sur le Game in Reims, donc avec les interviews de Patrick Borg et Brigitte Lecordier, ainsi que le staff, le public également, savoir ce qu'ils ont pensé de cette deuxième édition. Personnellement, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait plus de monde que l'année dernière, que pour la première édition. Donc, et il y avait un hall en plus.
Ah oui.
Voilà. Oui.
Ah, ça devait être. C'était déjà grand quand même. Hein.
C'était voilà, ça allait. Donc il y avait quand même le hall d'entrée où il y avait des stands. Il y avait du cosplay qui était là. Il y avait les cosplayers de France qui avaient leur propre stand qui était très joli. D'ailleurs, si vous allez
sur
notre sur blog,
la thématique d'Harry Potter, je crois. Hein.
Si vous allez sur notre blog, vous avez une photo de Voldemort que je vous ai mis.
D'accord. Voilà. Super.
On écoute un petit scapé avec El Gato Lopez et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc maintenant on passe un petit peu au Gamin Reims qui a eu lieu le 24 et le 25 novembre, donc on a pu faire des interviews là-bas. Juste un petit mot donc sur le Gamin Reims, c'était la deuxième édition cette année. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de monde, alors j'y suis allée le dimanche. Il y avait un petit peu plus de monde, je pense, que l'année dernière, qu'il y avait quand même déjà. Enfin, le staff va répondre à cette question.
Tu es allée quel jour du coup?
Un dimanche.
Ah oui, donc oui. On y est allé un dimanche aussi hein.
L'année dernière, oui. Il y avait l'année dernière 17 000 personnes au Gamin Reims, ce qui est énorme pour une première édition. Là, je pense qu'ils sont dans les chiffres qui sont un petit peu plus hauts. On verra ça l'année prochaine, hein, du coup, quand on saura les chiffres de cette année. Pas mal de choses, pas mal d'invités aussi cette année. On avait donc Brigitte Lecordier qui revenait, puisqu'elle était là à la première édition. Patrick Borg, donc c'est marrant d'avoir Sangoku enfant avec Brigitte Lecordier et Sangoku adulte avec Patrick Borg. Également, il y avait Bernard Minet en concert. D'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait du concert. Également John Rhys Davies, alias Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore le professeur dans Sliders. Voilà, on a pu le voir dans beaucoup de films, dans Indiana Jones, etc. J'ai pas pu l'interviewer, hein, mais vous pouvez voir sa photo sur notre blog. Et puis, il y avait des invités également étonnants, je trouve, puisque, bon, il y avait des youtubeurs comme l'année dernière, et il y avait les chanteurs des chansons de générique de dessins animés des années 80. Qui étaient présents. J'ai pas pu les interviewer, mais il y en avait beaucoup.
Autre que Bernard Minet.
Voilà, autre que Bernard Minet, il y avait notamment.
Beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui chantaient.
Il y avait deux femmes et il y avait deux hommes, il me semble. Il y avait Monsieur Barouille, je ne sais plus son prénom. Il y avait celle qui chantait Jeanne et Serge, celui qui chantait Denver. Voilà, ça c'est des. Voilà, c'est pas. Enfin, on les entendait dans quelques dessins animés, mais c'est vrai qu'on les entendait pas dans comme Bernard Minet dans beaucoup de dessins animés. Je pense qu'ils en ont fait quelques-uns. Voilà. Donc c'était marrant de les voir également. Voilà, beaucoup d'invités, des youtubeurs, des personnes du milieu cinématographique, on peut dire, de la série, on va dire. Voilà. Beaucoup de choses. Donc, je vais vous passer donc les interviews de Patrick Borg, la voix de Sangoku adulte, de David Boreanaz et de bien d'autres, et également de Brigitte Lecordier qui était malade ce dimanche. Elle avait attrapé froid et donc ça a été très compliqué de faire une interview avec elle.
Pas de nuages magiques cette fois-ci.
Ah non, là, elle pouvait pas du tout. Elle était. Elle était à bout, là, la pauvre. Donc, voilà. On écoute donc ces deux interviews et puis après, on écoutera ensuite le staff. Et l'avis du public sur ce Gamin Reims deuxième édition. On écoute donc Patrick et Brigitte. Alors Patrick Borg, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment ça se passe le Gamin Reims?
Comment ça se passe le Gamin Reims? Écoute, ça se passe très très bien. C'est un accueil très chaleureux, très sympathique. Et tu as vu sur scène là que non, tu étais pas là quand on est allé avec Bernard Minet. Voilà de. Écoute, c'est toujours à chaque fois les conventions avec des gens très sympathiques qui nous accueillent avec plein de tendresse en nous disant toujours un petit peu qu'on est leur souvenir et leur voix d'enfance. Voilà.
Alors comment vous avez commencé à devenir comédien et comment vous êtes arrivé à faire la voix de Sangoku, de David Boreanaz entre autres?
Et de plein d'autres. Oh, ben, ça a commencé il y a très longtemps. J'ai commencé mon métier en 1967 par le théâtre. J'ai débuté au Théâtre de la Ville dans une pièce de Pirandello qui s'appelait « Six personnages en quête d'auteur ». Et là, mon père, bien évidemment, venait me chercher le soir après le théâtre et je jouais avec un monsieur qui s'appelait Fernand Sardou, qui était le papa de Michel Sardou, qui venait d'ailleurs très souvent voir son père jouer. Et c'est Fernand Sardou qui a dit un jour à mon père, René, je connais des gens qui ont une société de doublage et qui recherchent des voix d'enfants. Ton fils est comédien, joue au théâtre depuis un an. Et voilà, je suis allé rencontrer ces gens-là un jour qui m'ont fait débuter. J'ai démarré donc voilà, le doublage également en 1967 et puis après ça s'est enchaîné.
Est-ce que comme Brigitte, dans les années 80, on lui disait qu'elle faisait des japonaiseries, est-ce que vous aussi vous avez subi ce genre de personnes qui vous disaient que vous faisiez des japonaiseries ?
Oui, mais tout le monde disait un petit peu ça parce que c'était quelque chose, c'était un dessin animé qui n'était pas connu en Europe. Comme les dessins animés des pays de l'Est, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer par mon père qui était réalisateur de dessins animés puisqu'il était le réalisateur des Shadok, d'Ulysse 31, le Dauphin Blanc, Il était une fois la vie, Il était une fois l'homme, enfin bon, toutes ces choses-là. Et donc j'ai eu l'occasion par lui de rencontrer des dessins animés, des réalisateurs de dessins animés russes mais qui n'étaient absolument pas connus en France. Mon père en avait fait venir quelques-uns et également d'ailleurs des réalisateurs japonais puisque mon père avait, il y a une réalisation, enfin toute la fabrication du dessin animé Oum le Dauphin Blanc avait été faite au Japon. C'était le premier dessin animé français qui était fabriqué au Japon. Donc mon père connaissait déjà tout ça, connaissait le milieu du dessin animé japonais, mais ce dessin animé, ces dessins animés japonais, ces mangas, comme les dessins animés des pays de l'Est, avec les pays communistes et tout ça, ne sortaient pas de leur pays. Donc ça n'était pas connu. Ça l'est devenu après, petit à petit, et surtout le dessin animé japonais. Voilà, le premier qui est arrivé a été Goldorak, c'est Jacques Canestrier qui avait amené ça en France. Ça a eu un succès phénoménal. J'ai eu la chance de faire la voix de Mazinger Z, qui est le même personnage que Goldorak, et qui d'ailleurs au Japon est sorti avant Goldorak. Mais en France, c'est Goldorak qui est sorti d'abord, et Mazinger Z quelques années après.
Est-ce qu'on peut parler de vos projets ?
Oui, mes projets. Alors, déjà, dans les projets immédiats, là, j'ai repris il y a un an la première saison, on a enregistré la première saison de SEAL Team, donc où je double toujours David Boreanaz, que je doublais dans Buffy contre les vampires, Angel, Bones, et maintenant SEAL Team, et nous sommes en train actuellement d'enregistrer la deuxième saison. Voilà, j'ai toute la fin de la semaine dernière, là, mercredi, jeudi, vendredi dernier, et après je suis venu directement ici au Gamine Reims, j'ai enregistré David Boreanaz sur sa nouvelle série SEAL Team qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait auparavant, qui est d'une série qu'il produit d'ailleurs, mais qui est très très bien faite. Et c'est différent, c'est la vie de Marines américains, donc les SEAL Team. Et voilà, c'est autre chose, mais c'est très bien. Et j'ai toujours surtout autant de plaisir à le doubler parce que c'est un comédien comme quelques autres que je suis depuis longtemps. Donc je l'ai vu aussi se bonifier. Je veux dire, un comédien, c'est faut se nourrir de choses de la vie. Et je pense qu'il faut un certain temps pour pouvoir jouer des caractères et des personnages. Eh bien, il a fallu se nourrir un petit peu des choses de la vie.
Vous l'avez rencontré ?
Alors non, on ne s'est jamais rencontré, on s'est eu au téléphone un jour lorsqu'il était au festival de Deauville où un fan a osé aller lui parler en lui disant qu'il connaissait sa voix française et David Boreanaz lui a dit « je veux lui parler ». Ce fan m'a appelé, il m'a dit « écoute, je te passe David Boreanaz ». Je dis « mais c'est quoi cette histoire ?» Il m'a dit « je suis au festival de Deauville, il est à côté de moi, il veut te parler ». On a parlé, il m'a dit « mais écoute, viens me voir, je suis au festival de Deauville, ça me ferait plaisir de te rencontrer ». Et je lui ai dit « je peux pas, je suis en train de faire un doublage aujourd'hui ». Il me dit « mais laisse tomber ». Je lui ai dit « mais non, je peux pas laisser tomber parce que le mec que je suis en train de doubler, c'est toi ». Donc il a éclaté de rire. Je lui ai dit « demain, si tu veux, je n'enregistre plus ». On enregistrait les Bones à l'époque. Il m'a dit « malheureusement, demain matin, je reprends l'avion, je repars aux États-Unis ». Ça ne s'est pas fait. Alors, je sais qu'il y a des conventions qui ont essayé de l'inviter, mais voilà. Les tarifs sont un peu lourds et un peu chers pour que les conventions puissent se permettre de s'offrir. Voilà, des gens qui sont des stars et qui demandent un peu beaucoup d'argent pour venir.
Merci en tout cas, Patrick Borg. Est-ce que je peux vous demander un kamehameha ?
Ah oui, tout, bien sûr. Mais ça crée un peu un kamehameha. Alors, ok, pour tout le monde, kamehameha.
Merci beaucoup.
De rien, avec plaisir.
Alors, vous êtes là pour la deuxième édition du Game in Reims. Vous vous sentez bien, Reims ?
Ah oui, très bien, ouais, ouais. Il y a du champagne, ça pétille.
Et je vois que vous avez toujours autant de personnes devant votre stand qui vous demandent des dédicaces.
C'est de la folie, ouais, ouais. C'est ce qui est sympa, c'est que les gens qui sont déjà venus reviennent et avec grand plaisir. Et puis, il y en a plein qui disent « Ah, j'étais pas là l'année dernière, alors je suis venue cette année. » Et voilà, et c'était trop triste, j'ai pas pu avoir ma dédicace. Voilà, donc c'est sympa. Donc on n'a pas arrêté, en fait. Je suis arrivée, j'ai pas arrêté depuis hier.
Alors, au niveau de vos projets, j'ai vu quelque chose passer il y a environ 2 mois.
Ouais.
Et j'étais très étonnée d'entendre cette voix dans ce dessin animé qui est Pipoudou.
Oui, très bien.
Alors, comment c'est arrivé Pipoudou, comme ça, et de faire ce petit hamster à poil ?
Joli petit hamster. Ben, en fait, c'est arrivé, l'équipe des Cassos qui a fait ça. Moi, j'avais déjà bossé avec eux sur les Cassos, où j'avais fait mes personnages, E.T., Bonne nuit les petits, Oui Oui, etc. Et puis, ils ont écrit ce scénario-là, et ils disaient, si on prend quelqu'un qui joue, qui surjoue l'enfant, ça va être moche, et tout ça. On voudrait une voix très naïve, et tout de suite, ils ont pensé à moi, ils ont grandi avec moi, quoi. Donc, ils m'ont demandé de le faire, et c'était très drôle, parce que ils ne savaient pas trop comment me demander l'histoire. Mais j'ai adoré le faire, qu'est-ce qu'on s'est marré. Mais bon, bien sûr, c'est pour adultes. Mais je suis pour le dessin animé pour adultes. Franchement, autant j'aime bien faire les dessins animés pour enfants et tout ça. Là, je viens de faire Blaireau et Renard. C'est magnifique, c'est mignon, c'est vraiment... Il faut que tous les enfants regardent ça. Mais aussi, je suis pour que mes petits fans qui ont grandi continuent de nous entendre dans des choses qui sont de leur âge, quoi. Et il y a, dans la même catégorie, il y a La Petite Mort de David Mourier, qui est moins trash, bien sûr, plus sensible, mais qui est aussi un dessin animé pour adultes que j'aime beaucoup. Alors, évidemment, les enfants peuvent le regarder, mais voilà, c'est pour adultes.
D'ailleurs, vous allez faire la deuxième saison du dessin animé ?
Oui, oui, on va faire la deuxième saison, je suis contente, parce que ça marche bien, très bien. Ben, évidemment, il y a toute la communauté de David qui est là, qui est un petit peu la même que la mienne, mais pas vraiment, plus toute la mienne. Donc, à tous les deux, on fait un ensemble magnifique avec beaucoup de gens. Et les gens sont heureux de nous retrouver. En plus de nous retrouver tous les deux, c'est chouette.
Est-ce que ce genre de personnage pour adultes, vous le faites beaucoup plus maintenant qu'à l'époque ? Vous autorisez de casser un peu cette image de petit enfant qu'on vous a donnée dans les dessins animés ?
Ben, en fait, le dessin animé pour adultes en France, ça n'existe pas. Et moi, ça fait des années que je dis, ouais, ça serait bien qu'on en fasse venir aussi en France. Mais c'est difficile. Les chaînes disent qu'ils ne peuvent pas programmer ce genre de programme. Alors ça bloque tout, quoi. Si t'es pas programmé et que tu fais un truc, ça sert à rien. C'est difficile d'en faire ici parce que c'est pas diffusé. Ou alors toi, La Petite Mort, c'est sur le web. Et Pipoudou, c'est sur Blackpiece. Mais il n'y a pas de médias pour ça. C'est dommage. Alors évidemment, du coup, j'ai changé effectivement. J'ai grandi aussi avec mes petits fans, quoi. Mais ça m'empêche pas de faire des choses pour les petits aujourd'hui. Ça ne m'empêchera pas d'en refaire demain. Mais ça me fait vraiment plaisir de faire autre chose aussi, de rester fidèle aussi à mes petits fans qui ont grandi et d'être toujours à la hauteur de leurs envies, quoi.
Voilà. Pour Brigitte, qui était au bout là, de l'interview, elle ne pouvait pas plus. En tout cas, merci à Patrick Borg et Brigitte Lecordier de s'être prêtée au jeu du micro.
J'ai moins reconnu la voix de Angel, mais je pense qu'il doit prendre un ton un peu différent.
Oui, je pense aussi. Et du coup, qu'en pense le staff et le public avec, je vous mets un petit extrait également, du concert de Bernard Minet. Alors comment ça se passe du coup cette deuxième édition du Game in Reims ?
Alors ça se passe aussi bien que la première année, en mieux, dans le sens où on a trois halls, trois grands halls. Donc ça se passe au niveau au niveau du parc des Expos de Reims. Les trois halls ont réussi à être utilisés, à être réquisitionnés pour la Gamy Reims, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'espace et d'avoir aussi beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus de participants, d'invités, pour aussi satisfaire les invités qui sont encore plus nombreux, enfin les personnes présentes qui sont encore plus nombreuses. Donc l'année dernière, on était à 17 000 entrées, ce qui est vraiment conséquent. On ne s'attendait pas à autant de monde. Et c'est génial. On a eu beaucoup, beaucoup de bons retours, de très bons retours. Et c'est une des raisons pour lesquelles, deuxième édition cette année.
Moi, c'est la première fois que je vais au festival. Donc franchement, j'aime bien, c'est cool, c'est vivant. Et j'ai bien aimé les stands de petits jeux, de petites bonnets à oreilles. Et puis la bouffe, hein.
Alors j'ai bien aimé l'accessibilité sur les stands, pas trop de monde, plutôt accessible. La proximité aussi avec les différentes personnes sur les différents stands. On a pu avoir régulièrement les différents intervenants très rapidement sans avoir à attendre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis les différentes activités, la partie jeu de plateau, on a pu tester plein de jeux différents, plein de choses différentes. Donc non, oui, on a bien aimé, en tout cas on est venu en groupe, on a bien aimé le salon, le Gamy Reims.
Alors le Gamy Reims, je trouve ça sympa parce qu'il y a beaucoup moins de monde que dans les grands événements qu'on peut rencontrer comme la Japan, et ça permet plus facilement de naviguer et de passer du temps sur des stands qui nous intéressent. Voilà, et c'est vraiment à taille un peu plus humaine. On peut passer du temps sur les jeux de plateau par exemple, qui sont sympas, ou même sur les stands de jeux vidéo.
Alors ce que j'ai préféré, c'est surtout les stands, donc de jeux de société, de jeux vidéo, les stands un peu qui expliquent comment marchent les robots et tout et tout. Les stands pour d'achat.
Ce que j'ai préféré, c'est la partie jeux de plateau et aussi les nombreux artistes qui sont là pour exposer tout ce qui est peinture et création.
Voilà donc pour cette deuxième édition du Gamy Reims.
Mais il a même pas besoin de chanter, Bernard Minet, en fait. Juste qu'il vienne, qu'il tente son micro.
Oui, c'est ça, il y a tout le monde qui chantait autour. Il y avait du monde à son concert. Il a toujours la même voix, en plus. Même si physiquement, il a vieilli, il a toujours gardé cette même voix, en fait.
Brigitte Lecordier...
C'est pareil.
Elle n'a pas une voix de mamie, hein.
Non, du tout. voilà donc pour ce Gamy Reims. On passe à la musique, et ensuite je parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine.
1 minute 30, hein, tu vois.
C'est ça, exactement. On écoute Weezer avec Photographe, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, le forum Roleplay à l'honneur cette semaine s'appelle Excelsa. Découvrez une cité-état sur fond de steampunk où se mêlent science et magie. La cité est le lieu de négociations et d'alliances périlleuses. Excelsa, donc, un forum très politique, on peut dire. Peut-être pas très facile à aborder pour un débutant. Il y a énormément de choses à lire. Alors, c'est un forum qui date du 11 février de cette année. Il y a 39 membres enregistrés. Au niveau des graphismes, ils sont plutôt sombres dans les tons de noir et marron. Et au niveau des groupes, ou plutôt ici, ils s'appellent des factions, vous allez pouvoir jouer dans la faction du prieuré, des industriels, des marchands, du conservatoire, des citoyens, des apothicaires, etc. Vous allez pouvoir faire vraiment le métier que vous voulez. Bien sûr, si vous êtes un peu perdu sur ce forum, il y a un guide, le guide du jeu, donc pour vous guider à travers ce forum, puisqu'il y a beaucoup de choses à lire. Beaucoup d'annexes, la géographie, les contrées étrangères, la description des factions, les lois, l'économie, la spiritualité, religion, l'histoire. Il y a une petite carte également, une carte d'Excelsa interactive, où quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir les différents quartiers et voir à quoi ça correspond. C'est sympa d'avoir des cartes comme ça, j'aime bien. Et puis également des annexes sur tout ce qui est politique, technologie, les pouvoirs. Alors c'est pas des pouvoirs en termes de magie, on va dire, c'est plutôt de l'influence de votre personnage, donc sous forme de points d'influence. Vous avez également la possibilité, chaque perso va devoir avoir un vice et une vertu pour commencer, pour pimenter un petit peu le jeu, et suivant son vice ou sa vertu, ça peut faire tourner un peu le roleplay. on va dire. Et puis, il y a beaucoup d'intrigues qui sont en cours. Vous pouvez également lire les roleplay. Et puis, il y a une petite section qui s'appelle Vortex. Et là, dans cette section, eh bien, vous êtes libre. Libre de faire des RP avec qui vous voulez, dans un univers alternatif que vous voulez, que ce soit un futur, par exemple, cyberpunk de Excelsa, ou même un rêve qui n'impactera pas ce que fait votre personnage dans vraiment l'univers classique de Excelsa. Voilà, là, c'est vraiment du gros délire. Et puis, également, vous pouvez poser vos questions au maître du jeu sur un serveur Discord qui est disponible si vous voulez en savoir plus sur Excelsa. Voilà, pour donc, un forum que je dirais qui n'est peut-être pas abordable pour les débutants, quoique, bon, si vous êtes des débutants et que vous êtes vraiment motivés, pourquoi pas, hein. Excelsa, donc, pour aller sur ce forum, vous tapez excelsa.forumactif.com. Vous pouvez également aller sur notre blog, alors que c'est 15 lignes minimum de roleplay, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez aller sur notre forum loadingradio.wordpress.com et cliquer sur le lien pour vous rendre sur ce forum. On passe à nouveau à la musique et ensuite tu nous parleras d'une BD ?
Oui, d'une BD qui est sortie en début d'année et qui, j'en profite du coup, on parle toujours de Davy Mourier dans cette émission. C'est la collection de BD qu'il a lancée chez Delcourt qui s'appelle Une case en moins. Donc d'accord, ça fait partie cette BD-là de cette collection-là.
Très bien. On écoute donc Aretha Franklin avec Respect et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading et Lodi, c'est à toi oui, pour la BD.
Oui, donc on va parler des petites cartes secrètes de Anaïs Vachez, je ne sais pas si on prononce comme ça, et Cyrielle. Anaïs Vachez, vous la connaissez peut-être pas forcément comme ça de nom. Moi, je ne connaissais pas jusque-là. En fait, elle a beaucoup travaillé, en même temps, c'est son compagnon maintenant, avec François Descraques. Et elle a notamment sorti cette année un court-métrage qui s'appelle Le Petit Monstre, que je vous conseille d'aller chercher sur YouTube, parce que c'est vraiment très sympathique. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs acheter cette BD, enfin, qui me faisait déjà un peu de l'œil, parce que, évidemment, Davy Mourier a beaucoup parlé de la collection de bande dessinée qui sortait, mais là ça m'a donné d'autant plus envie de la lire. Donc dans cette bande dessinée, on suit l'histoire de Tom et Lily qui ont été séparés après le divorce de leurs parents. Donc ce sont des enfants qui ont, je pense que le grand frère doit avoir une dizaine d'années et la petite sœur a quelques années de moins. Et donc pour qu'ils le revivent tous ensemble, les deux enfants ont un plan. Leurs parents doivent retomber amoureux. Parce qu'effectivement, il y a la petite fille vit avec sa mère et le petit garçon vit avec son père. Donc ils ne se voient pas très souvent. Et donc à travers une correspondance secrète, à base de cartes postales qu'ils s'envoient, Tom et Lily vont élaborer des stratagèmes en tout genre, parfois ingénieux mais souvent hasardeux, et ainsi bouleverser le monde des adultes. Puisqu'évidemment, le papa s'est retrouvé une copine, donc ils vont tout faire pour les séparer, pour que voilà, papa et maman se retrouvent enfin ensemble. Et c'est une BD vraiment réussie, c'est très joli. Le dessin de Cyrielle va très bien en plus dans cette bande dessinée-là.
Pastel, elle... couleur pastel.
Ouais, et puis alors les couleurs sont faites à la main. C'est, en tout cas de ce que j'en ai l'impression en regardant, ça ressemble quand même beaucoup à de l'aquarelle. Et donc c'est très coloré. Et alors ce qui est rigolo, c'est que cette histoire de correspondance, elle en parle à la fin, Anaïs, en expliquant que étant plus petite, quand ils allaient en vacances, les grands-parents les forçaient à écrire des cartes postales à leurs parents, à eux. Mais en fait ils adoraient ça, ils adoraient recevoir, donc il y avait toute une correspondance entre leurs parents et eux-mêmes pendant les vacances. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de faire cette histoire-là. J'en dis pas trop sur l'histoire parce qu'il y a quelques surprises dedans. Ce qui est bien, c'est que c'est à l'époque des années 90. Donc il y a des petits clins d'œil. D'ailleurs, à l'arrière de la couverture, il y a plein de jouets qui sont dessinés qui vous rappelleront forcément quelque chose.
Des lucioles.
Oui, des lucioles. Puis j'ai vu un petit personnage avec, je sais pas si tu te souviens, une poupée où on pouvait accrocher des petites bestioles dans les cheveux.
Oui.
Avec des couleurs là.
Dame Boucleline.
Oui, peut-être. Je crois qu'il y avait un dessin animé.
Il y a un dessin animé, oui. Et j'en parlerai peut-être.
Et donc c'est une lecture qui est vraiment toute douce, pleine d'émotions. Vous allez aussi bien rire que être ému. Et voilà, c'est très réussi, c'est très sympathique comme BD. Je la conseille vivement et j'ai été vraiment surprise de plein de choses. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de découvrir un peu plus ce que faisait Anaïs, puisqu'elle a fait pas mal de courts-métrages d'animation. Et donc ça donne envie d'en savoir plus sur son travail. Cyrielle, je connaissais déjà un petit peu parce qu'elle avait notamment dessiné dans l'album Coquet Coco vidéo sur les Français qui étaient partis vivre ou faire un voyage au Japon, dont j'avais déjà parlé, bande dessinée qui est extrêmement bien. Donc là, voilà, je vous conseille les petites cartes secrètes d'Anaïs Vachez, je ne sais pas comment ça se prononce, et Cyrielle. Un bon cadeau à faire pour Noël.
Ok, très bien. On écoute Superbus avec Chikumba et on se retrouve tout de suite après pour parler des sorties ciné à 3, de l'actu tournage, également de la petite rubrique animé nostalgie. Et puis on finira par une web-série que j'ai été interviewée à Reims, le créateur et les comédiens. On écoute donc Superbus et on se retrouve tout de suite après, toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe tout de suite aux sorties ciné à 3 avec le film Assassination Nation, réalisé par Sam Levinson avec Odessa Young et Suki Waterhouse. Attention, c'est interdit au moins de 12 ans. Comme partout ailleurs, Lily, élève de terminale et son cercle d'amis évoluent constamment dans un univers de textos, selfies, chats et autres posts sur les réseaux sociaux. Quand un hacker se met à publier des détails personnels et compromettants sur les habitants de leur petite ville, celle-ci sombre rapidement dans la folie pure. Lily et ses camarades survivront-elles à cette nuit infernale ? Assassination Nation, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre sortie, la sortie d'Astérix, le secret de la potion magique, un film d'animation réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier. À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. C'est à voir également au CGR A3. Autre sortie, Cassandro the Exotico, réalisé par Marie Lozier avec Cassandro. Après 26 ans de vol plané et d'empoignade sur le ring, Cassandro, le roi des Exoticos, ces catcheurs gays qui dynamitent les préjugés, est incapable de s'arrêter. Le corps en miettes, pulvérisé, il va pourtant devoir se réinventer. Cassandro the Exotico, c'est à voir actuellement au CGR A3. L'exorcisme de Anna Grace, c'est réalisé par Diederik van Rooijen avec Shay Mitchell et Stana Katic. Une ex-policière déchue en désintoxication accepte un travail dans la morgue de l'hôpital où elle se soigne. Un jour, un corps sévèrement mutilé lui est confié. La jeune femme assiste alors à une série de meurtres qui la conduira à affronter une entité démoniaque. L'exorcisme de Anna Grace est actuellement au CGR A3. Le film Marche ou crève, réalisé par Margot Bonhomme avec Diane Rouxel, Jeanne Coendy et Cédric Kahn. Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l'été de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors, où elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s'occuper de sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui la fait basculer de l'amour à la haine jusqu'à perdre pied. Marche ou crève, c'est à voir également à 3 en ce moment. Et enfin, le film Pupille, réalisé par Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch et Elodie Boucher. Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère a 2 mois pour revenir sur sa décision ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service d'adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter au sens plein du terme, dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait 10 ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. Pupille est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois. Pupille, c'est à voir actuellement au CGR A3. En sortie décalée, vous avez également un film d'animation, Arthur et la magie de Noël. En fait, c'est un programme de 2 courts-métrages d'animation. Vous avez également en ce moment La nuit de la glisse, magnétique, réalisé par Thierry Donnard. Et puis, au niveau des avant-premières, Oscar et le monde des chats, c'est un film d'animation réalisé par Gary Wang et ce sera dimanche 9 décembre à 11h. Avant-première également de Rémi sans famille, réalisé par Antoine Blossier avec Daniel Auteuil et Malome Paquin le dimanche 9 décembre à 14h. D'ailleurs, il y a eu des scènes qui ont été tournées à 3 avec des canons à neige.
Oui, au musée Vauluisant.
Oui. en plein été.
À côté de chez moi à ce moment-là, c'était très étrange. Ça fait beaucoup de bruit un tournage aussi. Hein.
Voilà. Et puis, en avant-première, Spider-Man New Generation, réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. C'est un film d'animation, ça sera dimanche à 14h en avant-première au CGR A3. Du côté de l'actu tournage, on en sait peut-être un petit peu plus sur Pinocchio. Oui, le live action que Disney compte faire. Tom Hanks serait peut-être en Gepetto dans cette adaptation live. Dans l'exploration du cultissime catalogue à sa disposition, Disney compte offrir une seconde jeunesse donc à la marionnette Pinocchio. Paul King, réalisateur de Paddington et de sa suite, a en effet été engagé par le studio pour diriger le film. Alors, pas un nom qui provoque une énorme excitation, hein, surtout lorsqu'on sait que Netflix a débloqué le Pinocchio de Guillermo del Toro. Ouais. Les remakes Disney, dans la majorité des cas, se contentent de resservir un peu la même soupe sans tenter de vraies propositions artistiques. Vous avez peut-être pu voir le teaser du Roi Lion, qui est exactement comme le dessin animé au niveau des plans, sauf que c'est du live action, donc c'est joli, voilà. Mais ouais, ça n'apporte rien.
Le dessin animé, ça a son charme. Hein,
Voilà, donc, il paraîtrait que Tom Hanks serait en pleine négociation donc, pour rejoindre le projet dans le rôle de Gepetto, le créateur de Pinocchio. Il faudra néanmoins s'armer de patience. Hein. Pinocchio ne devrait pas sortir avant 2020 dans les salles, sans aucune date encore prédéfinie. Il devra entrer en production l'année prochaine. 2019 sera déjà une année chargée pour Disney, avec les sorties de Dumbo le 27 mars, Aladdin le 22 mai, Le Roi Lion le 17 juillet, puis en 2020, le Mulan de Nicky Caro en mars. Planning donc chargé hein, pour Disney qui n'a pas fini d'occuper l'espace avec en plus la sortie de leur service streaming Disney+, probablement à la fin de l'année prochaine. Voilà ce qui concerne live action Disney. Et puis bienvenue à Zombieland 2, Zoé Dutch rejoint l'aventure, on le sait déjà depuis plusieurs mois. Bienvenue à Zombieland 2 va enfin se faire et sortira dans les salles obscures en octobre 2019. Tout le casting original est évidemment de retour pour l'athée du mort-vivant, hein, Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin.
Ils ont tous pris 10 ans depuis, non ?
Oui. Et donc à leur côté, on découvre une petite nouvelle interprétée par Zoé Dutch qui devra camper la petite amie de Columbus. Donc voilà, bienvenue à Zombieland, ce sera toujours réalisé par Ruben Fleischer. Ça devrait entrer en tournage très bientôt et nos tueurs de zombies devront cette fois-ci faire face à de nouvelles créatures qui ont évolué depuis le premier film et qui sont devenues plus fortes, plus rapides et donc plus difficiles à abattre. Nul doute que Columbus devra ajouter quelques règles de survie. Ils devront également se mesurer à d'autres survivants humains et surtout apprendre à gérer leur famille dysfonctionnelle mais terriblement attachante. Voilà, donc bienvenue à Zombieland 2, sortira dans les salles françaises le 16 octobre 2019, soit 10 ans après le premier.
Oui, c'est ça, hein, ouais. je disais qu'ils avaient pris 10 ans dans la figure.
C'est ça, tout ouais. À fait ça. Et on en arrive donc à notre petite rubrique animé nostalgie où je vous parle d'un dessin animé des années 80 et je vous spoil la fin. Élodie, tu vas essayer de deviner, le générique faisait comme ça.
C'est la fête.
Dis-moi qu'il n'avait pas 13 ans.
Non, pas 13 ans.
Parti sur l'océan.
Sur l'océan.
Je connais pas du tout.
Il était haut comme trois pommes, mais plus valeureux que trois hommes.
Mon petit gars, prends garde à toi. Sois courageux, tu connais pas. Mille trompettes, mille dauphins. Avant d'atteindre ton rival.
Une histoire d'île.
Île.
Trésor.
Oui.
Je n'ai jamais vu ce dessin animé.
L'île au trésor, donc, qui est un dessin animé japonais, qui a été diffusé la première fois en France sur Kabukadin, sur Canal+, en 86, et après qui a été rediffusé sur Récréa 2, sur Antenne 2, sur le Club Dorothée également, et puis beaucoup plus tard, dans Midi les Zouzous, en 2007 même.
Autant je connais Robinson Sucroé.
Oui. Non, là c'est L'île au trésor. Donc c'est l'histoire de Jim Hawkins qui n'a pas 13 ans quand il décide de partir à la recherche du fabuleux trésor d'un célèbre pirate mort aujourd'hui, capitaine Flint. Avec Benbow, son petit léopard, Jim embarque donc à bord de l'Hispaniola accompagné du docteur Livesey, du sympathique Trelawney et du capitaine Smollett à la droiture implacable et également de John Silver.
Smollett.
Ouais. De John Silver, un unijambiste cuistot en apparence, mais pirate en réalité, qui prendra Jim sous sa coupe. Voilà, donc c'est bien sûr adapté du roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. C'est un dessin animé de 26 épisodes de 22 minutes qui se regarde plutôt bien. Et en le regardant, on se dit, tiens, c'est bizarre, le dessin ressemble beaucoup à Rémi sans famille. Et bien c'est normal, puisque l'adaptation a été réalisée par Osamu Dezaki, qui est connu donc, pour son travail sur Rémi sans famille, Cobra et Je sais tes matchs, entre autres. Voilà, donc c'est un dessin animé qui se regarde plutôt bien. L'histoire est beaucoup basée sur relationnel entre Jim et John Silver, parce que John Silver se montre d'abord sous les traits sympathiques, et en fait c'est un pirate. Et donc, comment se finit ce dessin animé? Bien, à la fin, après être parti sur l'île au trésor, ils ont découvert le trésor. Jim rentre à la maison, et ensuite on a une ellipse 10 ans plus tard, où on prend des nouvelles de tout le monde, où il n'a pas revu John Silver, qui lui a pris une partie du butin et s'est barré. 10 ans plus tôt, sans dire au revoir. Et Jim donc va devenir marin. Et il va rencontrer Silver dans un bar, qui va faire semblant de pas le reconnaître, alors qu'il a vraiment voilà beaucoup d'amitié pour John Silver. Voilà en ce qui concerne eh bien ce dessin animé. Et puis là, on n'a plus le temps de passer à la musique et je vais vous passer donc l'interview de Guilhem, le créateur de Donjon Legacy, également des comédiens, qui était au Gamin Reims, deuxième édition, qui était là également à la première édition. On avait déjà fait une interview avec lui. Et donc vous pouvez retrouver la saison 2, le premier épisode, sur YouTube et également sur notre blog. On écoute donc l'interview de Guilhem et des comédiens de Donjon Legacy.
Bonjour.
Donc tu es le créateur, on peut dire, de Donjon Legacy.
À la franchouillarde, on aime bien, mais ça marche aussi à l'international parce qu'un anglophone qui va lire Donjon va dire Donjon Legacy et ça tombe bien, c'est Dungeon, voilà, en anglais.
Je voulais savoir justement où ça en était, puisque qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière?
Alors, il s'est passé plein de superbes choses. Alors, je ne sais plus quand il était en novembre l'année dernière. Bon, déjà, on a multiplié des prix dans des festivals à l'international, ce qui a fait qu'on a été remarqué. On a été remarqué par une société de production, alors que nous n'étions qu'une association au départ, qui a décidé d'acheter les droits de la série, de travailler avec nous. On a négocié pour garder notre liberté artistique, etc. Et que le projet garde la même substance qu'au départ, le même esprit un petit peu fou, un petit peu délirant. Et donc, qui a accepté de nous produire. Cette société s'appelle Zebra Productions, est basée sur Paris. Et nous a permis aussi d'avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès, qui sont des aides, des financements, des soutiens publics, et qui nous a permis donc d'avoir accès au soutien du Grand Est. La région Grand Est a soutenu la création de deux épisodes pilotes, un espèce de, pas de reboot, c'est dans la continuité, mais on est sur une nouvelle ambition pour notre petite web-série qui est en train de devenir une série en fait, et donc qui nous a soutenus quand même à hauteur de 30 000 euros, ce qui n'est pas du tout négligeable étant donné qu'avant on tournait avec rien. Et nous avons aussi fait un crowdfunding auprès de notre audience qui nous a soutenus à hauteur de 20 000 euros, ce qui fait qu'au final on a pu sur un nouveau tournage qui s'est organisé en août tourner 3 nouveaux épisodes de notre série dans des meilleures conditions, alors un peu plus de personnes, un peu plus de personnel dans l'équipe qui sont venus renforcer notre projet parce qu'on était un petit peu multiposte, multitâche et on s'épuisait. Et puis en même temps, quand on obtient des financements publics, on est obligé en fait de respecter le droit du travail et de payer les gens. Donc qui en même temps nous ont permis d'honorer le contrat moral qu'on avait passé avec notre équipe de bénévoles dans la saison 1, qui était que bah, vous verrez dans la saison 2 on va vous payer un petit peu. Et c'est génial parce qu'on a pu payer un petit peu notre équipe. Et donc en fait on s'est professionnalisé tout simplement. L'année dernière j'étais un amateur et maintenant je suis un scénariste.
Attention, s'il vous plaît.
membre de la SACD, tout ça. Donc de très belles choses effectivement nous sont arrivées. Avec le mois dernier, un dernier point culminant, nous avions eu des prix un peu partout à l'international, dans d'autres festivals. Et nous avons eu notre premier prix en France, nous avons eu, et pas n'importe où, au Comic-Con Paris. Nous avons eu le prix de la meilleure web-série, tout simplement, au Comic-Con Paris, il y a un mois, ce qui nous a fait très plaisir, avec Beta Série, qui est d'ailleurs présent aussi sur le Game in Reims. Voilà.
Et du coup, le format des épisodes, c'est un peu plus long maintenant ?
Oui, tout à fait. On savait d'ailleurs dès la saison 1 que le format serait très frustrant. 3-4 minutes, c'est très court. Certaines personnes nous charriaient même en nous disant qu'on avait presque plus de génériques que d'épisodes. Mais c'est pas grave, on assume. Et donc là, on a pu maintenant faire du 10 minutes. C'est ce qui était prévu, faire du 10 minutes. Au final, ça a plutôt ressemblé à du 12 qui dérape vers le 15. Voilà. Donc on est super content parce qu'on peut offrir aux gens qui nous ont soutenus. On a quand même beaucoup de gens qui nous ont donné de l'argent pour produire la suite, on leur offre une série plus longue. Même si pour l'instant il ne s'agit que de 3 épisodes, on a carrément pu monter en gamme. On avait du cochon d'un tueur dans la saison 1, attendez, dans la saison 2, on passe au chinchilla de guerre. Imaginez la plus-value qualitative.
D'accord. Et au niveau de la saison, ça sort quand ? Où est-ce qu'on peut aller voir les nouveaux épisodes ?
Alors, la saison, elle est encore en cours de montage, qui est quelque chose qui est très très long, beaucoup plus long souvent que ce que les gens qui ne connaissent pas l'audiovisuel pensent. Là, hier, sur le Game in Reims, nous avons profité d'être dans le Grand Est, qui nous a soutenus, pour faire notre première avant-première, en diffusant, en projetant avec Beta Série dans la salle de projection du Game in Reims, dans de super belles conditions d'ailleurs, bravo à Beta Série pour ça, bravo au Game in Reims, en projetant donc notre tout nouvel épisode. Et on a fait salle comble parce que beaucoup de gens voulaient voir, et on a été absolument ravis de pouvoir découvrir les retours de notre public et de voir d'entendre plein d'éclats de rire. Voilà. Donc c'était vraiment chouette.
D'accord, bah merci beaucoup Guilhem. Puis bonne continuation.
Bah super. Merci beaucoup aussi.
Oui, bonjour, moi je suis Sébastien Serra, j'interprète Jon dans Donjon Legacy.
Et bonjour, je suis Benjamin Deras et j'interprète le grand Mido, le magnifique.
Alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces tournages maintenant ?
Oui, alors par rapport à l'année dernière, on a lancé un Ulule qui a fonctionné et on a eu l'aide du Grand Est, donc on remercie encore tous les contributeurs et le Grand Est, et on a tourné du coup la suite de la saison 2, 3 épisodes cet été. C'était génial, avec des nouveaux personnages. Voilà, il y a Davy Mourier, Lucien Men, il y a Bob Lennon qui a posé sa voix sur les prochains épisodes. On est hyper fiers. Le rendu, on a fait une projection hier en avant-première avec Beta Series au Game in Reims qui s'est super bien passé. On a encore augmenter le palier de qualité, on trouve, sur l'image surtout, même sur le rythme de l'épisode. Donc on est hyper fiers de ce qu'on a tourné, ça arrive bientôt et voilà.
Oui, c'est ça, une saison 2 un peu, je dirais, beaucoup plus qualitative, même si déjà la première saison était très bonne. Là,
sauf Mido, bien sûr.
Oui, voilà, sauf moi, enfin sauf les autres aussi, de toute façon, ils sont mauvais. Non, une très bonne deuxième saison, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup travaillé aussi, mine de rien, sauf certains. Et voilà, on espère que la suite sera d'aussi bonne qualité, en tout cas.
Merci beaucoup, merci John.
Non, c'est Jean.
Voilà, donc pour Donjon Legacy, donc vous pouvez voir le premier épisode de la saison 2 qui dure donc 12 minutes et je vous ai mis le lien sur le blog.
Davy Mourier partout.
Davy Mourier partout, c'est ce que je me disais en les interviewant, je fais « Ah, il est partout ». Notre émission touche à sa fin, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, et puis surtout ce week-end.
Ah oui, ce week-end.
Il y a le Festival des Jeux à Troyes, n'hésitez pas à venir, nous on y sera, on va faire des interviews et puis on va profiter également de tout ce qu'il va y avoir sur ce salon, il y a plein de nouvelles choses, ça va être chouette.
Oui, plus grand cette année.
Oui,
4e édition.
Plus grand, plus de stands.
Et des nouveautés.
Voilà, plus de joie.
Donc rendez-vous ce week-end pour le Festival des Jeux de Troyes et puis pour l'émission. Donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao.